Vous écoutez France Culture.
France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Et nous consacrerons une large partie de ce journal au résultat des élections législatives organisées hier en Suède. Le pays a, semble-t-il, su résister à la poussée de fièvre nationaliste suscitée par la crise migratoire en Europe. Reste que le nouveau paysage politique fragmenté issu de ce scrutin rend désormais toute conjecture particulièrement hasardeuse. Nous serons en direct avec notre envoyé spécial Marie-Pierre Véraud, mais aussi Philippe Poirier, chercheur à l'Université du Luxembourg.
Et puis, ces élections en Suède nous éclairent d'ores et déjà, Thomas, sur la stratégie qui se dessine pour les élections européennes.
Oui, avec Quentin Dickinson, nous tâcherons de décrypter la nature du débat tel que certains pourraient chercher à l'imposer dans les prochains mois. En clair, un scrutin réduit à une lutte entre nationalistes d'un côté et progressistes de l'autre.
En Allemagne, ouverture aujourd'hui du premier grand procès de Volkswagen dans l'affaire du fameux Dieselgate.
Et à cette occasion, nous verrons avec notre correspondant Ludovic Piétenu combien ce scandale s'est transformé ces trois dernières années en un mal pour un bien.
Dans votre édition, également Thomas Cluzel, toujours à l'étranger, la bataille finale d'Idlib semble se rapprocher.
Tout le week-end, l'aviation russe et les forces loyalistes du régime de Bachar el-Assad ont entamé le pilonnage de la province, viendra nous raconter Eric Bigala.
En France, les prémices de ce qui pourrait constituer une recomposition de la gauche.
Et ce week-end, socialistes, communistes, verts et insoumis se sont rencontrés à Marseille. Décryptage dans ce journal avec Frédéric Saïs. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Il a théorisé ce qu'on appelle aujourd'hui communément les jobs à la con, ces bullshit jobs. C'est David Graber, anthropologue américain, qui sera notre invité à partir de 12h55. Ensemble, on va revenir sur la valeur du travail et surtout le sens à lui donner aujourd'hui.
Merci et à tout à l'heure. Même si beaucoup jugent aujourd'hui que la Suède peut enfin pousser un soupir de soulagement, l'issue des élections législatives organisées hier n'en conserve pas moins un goût, disons, amer pour tous les partis traditionnels. Tout d'abord parce qu'avec à peine plus de 28% des suffrages, le dernier parti social-démocrate au pouvoir en Europe enregistre là son pire résultat en plus de 100 ans. Quant aux conservateurs modérés, ils devancent de 2 points seulement l'extrême droite qui, avec 17,6% des voix, réalise elle non seulement le meilleur score de son histoire, mais aussi le gain le plus important parmi les partis en nombre de sièges au Parlement. Alors on pourra toujours arguer que les nationalistes ont échoué à devenir le deuxième plus grand parti de Suède. Il n'en reste pas moins que dans une société longtemps louée pour sa tolérance, le discours xénophobe aura fini par résonner chez près d'un électeur sur 5, ou quand la crise migratoire en Europe continue à polariser les électeurs et briser le consensus politique. Marie-Pierre Véraud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Suède. À présent, le résultat définitif de ces élections est encore suspendu aux quelques 200 000 Suédois de l'étranger dont le vote ne sera dépouillé que mercredi. Il ne devrait toutefois pas beaucoup changer les termes de l'équation. Qui pour diriger le pays ? Aucun des deux grands blocs dominants de l'échiquier politique n'ayant obtenu de majorité. Il leur faudra nécessairement surmonter des décennies d'acrimonie pour former un gouvernement de coalition où l'extrême droite, elle, espère bien, Marie-Pierre, se poser en arbitre.
Oui, c'est effectivement l'un des enseignements incontestables de ce scrutin dont les résultats ont par ailleurs plongé les Suédois dans des abîmes de perplexité. L'extrême droite bouscule et sans doute de façon durable le système des deux blocs droite-gauche qui dominait le paysage politique et qui a fait de la Suède l'une des démocraties les plus stables du continent. La Suède plonge à présent dans l'incertitude. Qui pour diriger le pays, demandiez-vous ? Impossible de vous répondre ce matin. Les négociations sont compliquées. Logiquement, ce devrait être les sociaux-démocrates arrivés en tête, mais faute de majorité absolue de leur coalition rouge-vert, ils n'ont d'autre choix que de former un gouvernement minoritaire, qui serait donc très fragile à la merci de l'opposition, ou bien de débaucher une formation du bloc de droite, les centristes ou les libéraux, afin de s'assurer d'une majorité. Pour l'heure, c'est une fin de non-recevoir qu'a reçu le Premier ministre Löfven. La tâche n'est pas plus aisée pour les conservateurs. Le seul soutien qui s'offre à eux pour obtenir la majorité, c'est celui des démocrates de Suède, l'extrême droite qui leur a tendu la main dès hier soir. Un cadeau empoisonné dont cet appui serait assorti d'exigences sur la politique migratoire, sécuritaire, hors de question pour l'instant. Les démocrates de Suède sont toujours considérés comme des pestiférés par les autres formations. C'est donc une espèce d'impasse dans laquelle se retrouve la démocratie suédoise en raison de la progression de l'extrême droite. Elle progresse au Parlement, elle accroît aussi son emprise en province à la faveur des élections locales qui se déroulaient en même temps. Jimmie Åkesson, son leader, entend bien, il l'a redit hier soir, influencer durablement la politique suédoise, et cela pourrait concerner de nombreux secteurs au-delà des migrations. Pourquoi pas les questions d'avortement, de contrôle de la recherche universitaire, de l'expression artistique. Ce sont aussi des obsessions du parti de Jimmie Åkesson.
Merci Marie-Pierre Véraud en direct de Suède avec Clémence Bonfils pour les moyens techniques. Et toujours pour évoquer avec nous les résultats de ces élections, nous sommes à présent en ligne avec Philippe Poirier, chercheur à l'Université du Luxembourg. Bonjour monsieur. Alors l'extrême droite, on l'a dit, n'a pas réussi hier à renverser la table. Pour autant, ils sont parvenus à mobiliser près de 18% des électeurs, ce qui confirme bien la poussée aujourd'hui de ces droites dures au sein de l'UE. D'où cette première question, Philippe Poirier. À 9 mois maintenant des élections européennes, pensez-vous qu'un front nationaliste commun donc aux différents États membres soit en mesure d'émerger et le cas échéant de déstabiliser les deux partis dominants au Parlement de Strasbourg, le PPE et le PSOE?
Assurément, tous ces partis vont progresser dans l'ensemble des démocraties de l'Union européenne. De là à ce qu'ils réussissent entre eux à former un front commun au sein du Parlement européen, c'est-à-dire ayant adopté un agenda législatif et des votes disciplinés, c'est une autre chose. En revanche, ce qui peut être perturbé, c'est la relation entre les partis européens aujourd'hui au Parlement européen qui ont la majorité, parce qu'ils seront tentés les uns les autres soit de durcir leur discours vis-à-vis de l'immigration pour empêcher des votes vers ces partis nationalistes ou populistes, ou inversement, ils seront tentés peut-être de sortir de nouvelles coalitions, de nouvelles formes qui risqueraient d'isoler en fin de compte le premier parti actuellement au Parlement européen qui est le Parti populaire européen.
Vous dites qu'il sera difficile, a priori, pour les partis d'extrême droite des différents États membres d'arriver à s'entendre, finalement, pour un front commun. Pour quelles raisons?
D'abord, pour des raisons structurelles, suivant leur propre système politique. Par exemple, les démocrates de Suède, dont nous évoquons aujourd'hui l'élection, sont alliés au Parlement européen actuellement avec les conservateurs britanniques. En 2014, ils n'avaient pas voulu s'allier, par exemple, avec la Ligue Lombarde ou le Front National, aujourd'hui Rassemblement National, parce qu'ils considéraient ces partis comme étant trop à la droite d'eux-mêmes. Et on pourrait prendre chaque système politique ainsi. Alors, qu'il y ait des rapprochements, qu'il y ait parfois des nouvelles formes de coalition. D'ailleurs, la Ligue Lombarde et M. Orban, appartenant au PPE, essayent de créer un mouvement général. Mais il n'en demeure pas moins que, à la fois pour des questions structurelles, des questions idéologiques et aussi de légitimité propre au sein de leur système politique, ils feront attention aux alliances qu'ils auront à mener ou à former au sein du Parlement européen.
Alors il n'en demeure pas moins qu'il y a bien un point commun au fond à toute cette droite dure en Europe et que l'on pourrait résumer à un discours anti-migrant. Comment expliquez-vous que ce discours résonne chez une partie des citoyens alors même que les chiffres d'arrivée restent extrêmement modestes et que par ailleurs dans le cas notamment de la Suède, le pays affiche en plus une excellente santé économique? Pourquoi en somme des arguments a priori simples, rationnels, objectifs ne suffisent pas à dissuader aujourd'hui des électeurs de se tourner vers des formations ouvertement xénophobes?
Alors deux niveaux. D'abord, dans certains pays, la relation entre crise économique et discours anti-immigration fonctionne. Par contre, dans d'autres pays, comme la Suède, l'Autriche, la Suède, la Suisse ou le nord de l'Italie, ce couple immigration-crise économique ne fonctionne absolument pas. Ce qu'il faut s'intéresser, c'est aussi, j'allais dire, un deuxième niveau. C'est-à-dire que derrière le discours de l'anti-immigration, cela permet aussi à une remise en cause du système politique en lui-même. En Suède, en Italie, en Suisse, en Autriche, pendant des années, vous avez eu une alternative entre deux forces politiques, les sociaux-démocrates ou les chrétiens-démocrates ou conservateurs, suivant les pays. À partir du moment où les électeurs ont considéré qu'il n'y avait pas assez d'alternatives, sont arrivés ce type de partis, qui, en adoptant un discours fort sur l'immigration, mais sur d'autres questions aussi, sur justement le fonctionnement du système politique, sur des alternatives éventuelles économiques, alors ils ont gagné en légitimité. Donc, abandonnons la lecture, j'allais dire, historique du couple immigration-crise économique pour ouvrir le panel des interprétations et des résultats d'analyse sur immigration, critique du système politique, etc.
Justement, Philippe Poirier, ce faisant, est-ce qu'une autre raison du succès de l'extrême droite n'est pas à trouver au fond dans l'ostracisation dont sont frappés de manière générale les partis d'extrême droite? Ce que l'on constate aujourd'hui en Italie, en Autriche, en Allemagne, ne démontre pas que lorsqu'on jette l'anathème finalement sur un parti, eh bien un réflexe contestataire veut que l'adhésion des électeurs s'en trouve renforcée.
Alors votre question est très intéressante parce que lorsqu'on les met dans ce qu'on appelle un cordon sanitaire où on les rejette de l'arc républicain, alors ils se fixent un point assurément d'un pôle électoral d'électeurs qui au départ ne sont pas forcément proches de leur idée sur les questions migratoires, mais qui les rejoignent en disant « Ah, eux sont une alternative au système actuel ». Et ce qu'essaie de mettre actuellement au niveau européen à la fois M. Salvini d'un côté et M. Macron, c'est justement de créer ce pôle de radicalité ou ce pôle d'opposition à la radicalité. Ils n'attendent que cela, d'être considérés comme les meilleurs ennemis ou alternatives d'un système politique. À chaque fois qu'ils ont été isolés fortement, à chaque fois ils ont progressé parce qu'ils rejoignent, et je répète, des électeurs qui autrefois votaient pour des partis de droite, des partis de gauche ou des primo-votants.
Une dernière question à ce propos, Philippe Poirier. Est-ce que la perte de confiance finalement dans la démocratie ne favorise pas l'idée d'un homme providentiel qui, par définition, ne peut véritablement s'incarner dans une formation dite traditionnelle?
Les enquêtes Eurobaromètre nous montrent qu'il y a une perte de confiance dans l'ensemble des institutions de la démocratie représentative. Mais à côté de cela, les citoyens européens demandent d'autres formes de participation politique ou de citoyenneté. Ces partis, eux, sont redevables de ce qu'on appelle la démocratie rédemptrice, c'est-à-dire l'appel au peuple, je suis le peuple, le peuple a raison. Il suffit aux autres partis de la démocratie représentative de réfléchir à améliorer la démocratie représentative en introduisant de nouveaux instruments et le discours de la pureté du peuple sera éventuellement endigué. Donc plutôt que d'opposer des conceptions autoritaires, même s'il y a de l'autoritarisme dans ces partis-là, hein, mais plutôt d'opposer ces deux formes, autoritarisme-démocratie, réfléchissons à comment la démocratie représentative peut être peut s'améliorer et empêcher cette démocratie purificatrice, rédemptrice que portent certains de ces partis les plus importants.
Merci Philippe Poirier d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Université du Luxembourg. Alors parmi les réactions à l'issue de ces élections, on notera notamment celle de Christophe Castaner, le délégué général de La République En Marche, pour qui la progression du parti d'extrême droite de Suède tire une fois encore la sonnette d'alarme et nous rappelle l'urgence, dit-il, de construire à l'échelle européenne un nouveau projet progressiste fédérateur. Quant à l'ancien Premier ministre belge, Guy Verhofstadt, aujourd'hui chef de file des libéraux et centristes au Parlement européen, il dit vouloir former un mouvement avec En Marche en vue des élections européennes. Quentin Dickinson, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Vous êtes en direct de Strasbourg. Il semble bien que pour ces élections européennes, comme d'ailleurs aujourd'hui dans la plupart des scrutins nationaux, une stratégie de plus en plus simpliste finalement se dégage, réduire le débat à une lutte entre populistes, nationalistes d'un côté et puis progressistes pro-européens de l'autre. Sauf qu'au-delà du socle de valeurs communes, ceux qui se définissent comme progressistes devront aussi trouver des thèmes sur lesquels mener bataille et surtout s'entendre. Et là, Quentin, ça s'annonce plus compliqué.
Oui, car s'accorder sur les valeurs qui sous-tendent la construction de l'Europe institutionnelle depuis ses débuts, il y a 70 ans, c'est évidemment le moins difficile. Mais au-delà, il y a à définir les thèmes, les tactiques, les méthodes, bref, ce qui fait la substance d'une campagne électorale. Et là, les conjurés pro-européens, on va les appeler comme ça, devront déterminer leurs axes prioritaires. Ceux-ci seront de deux ordres. D'abord, mais pas trop, les incontestables acquis de l'Union européenne. Ensuite, les incontournables réformes qu'appelle la stagnation actuelle d'une Europe dans un monde qui tente à la dépasser économiquement et à tenir pour désuète sa démocratie parlementaire et sa protection sociale. Mais chaque camp cherchant à attirer l'adversaire sur un terrain qui lui est défavorable, les démagogues national-populistes europhobes disposent d'une arme infaillible et qui a encore fait ses preuves hier en Suède. C'est la crainte diffuse et irraisonnée de l'évaporation de l'identité, de la culture, de la langue de pays européens confrontés aux vagues migratoires. Inutile pour messieurs Castaner et Verhofstadt de souligner que l'immigration est en recul très net au cours de ces deux dernières années. À cet argument objectivement fondé, mais que l'électorat ne voudra pas entendre, il leur faudra brandir la promesse de mesures plus étendues de surveillance des frontières extérieures de l'UE, plus rapides d'enregistrement de chaque migrant, plus efficaces et plus publiques de renvoi des clandestins et plus rationnelles dans la répartition entre pays de l'UE des réfugiés admis au séjour dans l'Union européenne. Et c'est sur ce dernier élément que les pro-européens espèrent marquer des points, puisque les europhobes sont profondément divisés entre eux, comme Viktor Orban, qui refuse brutalement tout migrant chez eux, et ceux, tels Matteo Salvini, qui réclament véhémentement la solidarité des autres pays européens.
Merci Quentin Dickinson en direct de Strasbourg. Après Chemnitz, la ville de Köthen en Allemagne va-t-elle devenir la nouvelle scène d'exposition médiatique de l'extrême droite? Hier soir, 2500 personnes ont manifesté à la suite de la mort la veille d'un jeune homme de 25 ans dans une bagarre avec deux Afghans. Les autorités n'ont donné aucune précision sur les raisons de cette altercation. On sait en revanche que le frère de la victime est un sympathisant néo-nazi aujourd'hui notoirement connu. On reste en Allemagne avec l'ouverture aujourd'hui du premier procès majeur contre Volkswagen pour avoir truqué des moteurs diesel, le fameux Dieselgate. Près de 3 ans se sont passés depuis l'éclatement de ce scandale au retentissement mondial. Ludovic Piétenu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Berlin. Alors s'agissant de ce procès en particulier, car rappelons-le, d'autres procédures sont actuellement en cours, le tribunal devra déterminer si le géant de l'automobile aurait dû informer plus tôt les marchés financiers de la tricherie et ainsi épargner de lourdes pertes à ses actionnaires. Mais au-delà, ce qui est intéressant à souligner, Ludovic, c'est qu'il existe aujourd'hui en Allemagne une approche presque positive de ce scandale, l'idée au fond que cette escroquerie est devenue un mal pour un bien.
C'est en tout cas la version optimiste que m'ont livré plusieurs experts automobiles ici. Un professeur d'économie, notamment de l'université de Duisbourg-Essen, estime que sans ce scandale, eh bien les choses auraient continué comme avant. Il faut en effet d'abord prendre conscience du séisme que cela a représenté ici. Ce n'est pas juste le pays de l'automobile ou l'une des grandes nations de l'automobile. L'Allemagne fonde aussi sur ce secteur d'activité une partie de sa réputation, de solidité, de fiabilité, de confiance, mais aussi une grande partie de son succès économique en matière d'exportation. C'est le pays qui a inventé le diesel, très longtemps subventionné pour ses faibles émissions en dioxyde de carbone, même s'il émet plus d'oxyde d'azote que les moteurs à essence. Ça n'a donc pas été seulement le premier constructeur mondial et ses 12 marques dont les filiales Audi et Porsche qui se sont retrouvées dans la tourmente, mais avec lui tous les constructeurs allemands en position de suspect. Honte supplémentaire si j'ose dire, le scandale a éclaté à la maison pendant une grande fête ici, le salon de l'automobile de Francfort il y a 3 ans. Ce Dieselgate a donc changé le regard sur ce moteur. Plusieurs villes allemandes interdisent tour à tour leur centre-ville au diesel. Ce désamour pour le diesel est même devenu un thème exploité par le parti d'extrême droite AfD qui joue sur la dimension quasi patriotique du diesel. Sans ce scandale, l'Allemagne, lancée par ailleurs dans une transition énergétique très ambitieuse, n'investirait pas autant qu'elle le fait dans l'hybride, la voiture électrique, l'hydrogène, bref, comme les Allemands l'ont fait au XXe siècle, envisager ce que pourrait être le succès automobile de ce siècle.
Merci Ludovic Piétenu en direct de Berlin. Après l'échec du sommet de Téhéran vendredi dernier, l'aviation russe et les forces loyalistes du régime de Bachar el-Assad ont entamé ce week-end le pilonnage de la province d'Idlib, ultime bastion insurgé dans la Syrie en guerre, un prélude attendu à une offensive terrestre qui fait craindre une nouvelle catastrophe humanitaire. Rick Biegala, bonjour.
Bonjour Thomas.
La région a été frappée samedi par les raids aériens russes les plus intenses depuis un mois.
Oui, et ces bombardements depuis n'ont pas cessé. Samedi après-midi, dimanche, hier, toute la journée et encore ce matin, les avions russes et syriens, vite rejoints depuis hier par les hélicoptères du régime qui bombardent eux en larguant leur fameux baril d'explosifs, enchaînent les rotations sur le sud de l'enclave d'Idlib. Au sol, les batteries d'artillerie syriennes, canons et lance-roquettes multiples, pilonnent également non seulement la ligne de front, mais aussi les bourgades situées légèrement sur l'arrière de celle-ci. En l'occurrence, les deux petites villes d'Al-Lataminé et Kasr Zaïta. Elles sont le plus au sud de l'enclave d'Idlib et ce sont elles qui, depuis ce week-end, ont subi le plus gros des bombardements. Selon l'Union des organisations de secours et de soins médicaux, qui soutient plus de 300 hôpitaux et dispensaires partout en Syrie, depuis vendredi, trois hôpitaux souterrains, trois centres de la défense civile syrienne, les casques blancs, et un centre ambulancier ont été attaqués et mis hors service dans le sud de l'enclave, près de ces deux petites villes. Reproduisant le schéma déjà observé lors des offensives d'Alep, d'Homs ou d'ailleurs, les aéronefs du régime et ceux de son allié russe cible manifestement en priorité tout ce qui pourrait ressembler à un dispensaire ou un hôpital de campagne, y compris quand ils sont enterrés. Les trois hôpitaux mis hors service ce week-end étaient tous souterrains. Quant aux civils syriens présents dans l'enclave, ils sont déjà 3 millions, dont la moitié sont déjà des personnes déplacées. Ils ont commencé à fuir la zone sud, cherchant refuge plus au nord. Et c'est bien là tout le problème de cette bataille qui ne fait que commencer, complètement encerclée au sud et à l'est par les troupes du régime, au nord et à l'ouest par les zones tenues par l'armée turque ou par la frontière turque elle-même, les 3 millions de civils d'Idlib n'ont pratiquement nulle part où aller se réfugier.
Merci Eric Biegala. Une nouvelle illustration de la politique hostile de l'administration Trump envers la direction palestinienne après la reconnaissance unilatérale par les États-Unis de Jérusalem comme capitale d'Israël. Les États-Unis ont décidé de fermer la mission palestinienne à Washington.
Midi 51 sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel et on part à gauche.
Oui, la gauche du Parti Socialiste finira-t-elle par sauter le pas? Elle qui ne cache plus ses désaccords avec le premier secrétaire Olivier Faure ira-t-elle jusqu'à quitter le parti pour créer une nouvelle structure? On sait déjà que le député européen Emmanuel Morel caresse de longue date l'idée d'un rapprochement possible avec Jean-Luc Mélenchon. Alors ce week-end à Marseille, à l'occasion de l'université d'été de Nos Causes Communes, le club créé par son courant et le MRC, il avait justement invité le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui en a aussitôt profité pour tendre la main à ses anciens camarades socialistes. Les précisions de Frédéric Seyss.
Il y a quelques mois encore, il était hors de question pour Jean-Luc Mélenchon d'envisager des alliances, des jonctions avec d'autres partis de gauche. Les gens ne supportent plus les cartels, les tripatouillages, les soupes de logos, expliquait le patron de la France Insoumise. D'ailleurs, pendant la campagne de 2017, il avait fait le choix de ne plus utiliser le mot gauche, selon lui devenu trop abstrait, pour préférer parler de peuple et de la révolution citoyenne qu'il appelait de ses voeux. Changement de ton donc, ce week-end, en compagnie des militants de l'aile gauche du PS. Vous me manquez, leur a lancé Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon, qui avait quitté le Parti Socialiste en 2008, il appelle cette aile gauche à une rupture avec la social-démocratie et à mener un effort commun. Le chef de file des Insoumis évoque comme priorité l'éco-socialisme et la renégociation des traités européens. Alors ce rendez-vous de retrouvailles trouve son sens à 8 mois des élections européennes. Il permet à Jean-Luc Mélenchon de diviser le Parti Socialiste et de le placer face à ses doutes sur la question européenne. Il permet aussi à cette aile gauche du PS, emmenée par l'eurodéputé Emmanuel Morel, de tenter de peser en interne, en laissant planer la menace d'une rupture, elle espère infléchir la ligne politique des socialistes.
Quatre prétendants, dont un favori, Richard Ferrand, et une challengeuse, Barbara Pompili. Les députés LREM choisissent en ce moment même leur candidat au perchoir de l'Assemblée pour succéder à François de Rugy. Et puis la nouvelle ministre des Sports, Roxana Maracineanu, qui avait mis les pieds dans le plat ce week-end en jugeant très brutale la lettre de cadrage budgétaire dont elle a hérité, a été reçue ce matin par le Premier ministre, Édouard Philippe. Et elle est manifestement, la nouvelle ministre a eu raison de taper du poing sur la table puisqu'à la sortie de sa rencontre, elle a assuré qu'aucun des 1600 conseillers techniques sportifs ne perdrait son emploi. L'Institut Montaigne a rendu public hier un rapport sur l'islamisme. Ce groupe de réflexion d'inspiration libérale s'est intéressé à ce courant, défendant une vision politique de l'islam. Et son auteur, Hakim El-Karaoui, propose plusieurs pistes pour lutter contre la montée de l'islamisme en France. Bonjour Antoine Maret.
Bonjour.
Quel est l'état des lieux dans ce rapport?
Eh bien, selon ce rapport, cette approche politique de l'islam est en nette progression en France. Elle représente désormais 28% des 6 millions de musulmans. Elle est présente dans la société à travers trois groupes. les salafistes inspirés par l'Arabie Saoudite, très actifs sur les réseaux sociaux, les frères musulmans qui s'investissent dans les actions sociales de terrain et les Turcs. Ces courants sont concurrents, mais ils ont un même but, créer un projet global avec la religion comme cadre de vie et comme projet pour l'individu et la société. Alors comment lutter contre ce fondamentalisme ? Hakim El-Karoui propose plusieurs pistes. La première, la création d'une taxe halal. Elle serait collectée par une organisation neutre, indépendante des pays étrangers, de l'État français. Elle permettrait de financer l'islam de France, la formation de cadres religieux et la construction de mosquées. Sauf que l'idée n'est pas nouvelle, c'est même un véritable serpent de mer en France depuis les années 90. Et le projet se heurte notamment à la division des musulmans français et l'absence de représentation. Une autre préconisation, plus originale celle-là, c'est le renforcement de l'arabe à l'école publique. Car selon Hakim El-Karoui, le nombre d'élèves qui apprennent l'arabe au collège et au lycée a été divisé par 2 et il a été multiplié par 10 dans les mosquées. Et ces cours d'arabe dans les mosquées sont devenus pour les islamistes un moyen d'attirer des jeunes. Ce rapport va être envoyé au président de la République et le calendrier n'est pas un hasard. En ce moment, des assises territoriales de l'islam de France sont organisées dans chaque département et à l'issue de cette concertation, l'exécutif va donner dès cet automne un cadre et des règles à l'islam de France.
Merci Antoine Marette. On termine avec un mot du temps. Globalement ensoleillé, les températures, elles seront compressées cet après-midi entre 20 et 31 degrés.